Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com.
The battle for the mind of North America will be fought in the video arena. The video drone.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale fantastique et horreur. Vous savez qu'on adore le cinéma horrifique et le cinéma fantastique. Et on va vous parler de plusieurs films, dont certains sont considérés d'ailleurs comme des classiques aujourd'hui. Hein. On va commencer par le Vidéodrome de David Cronenberg. On vous causera aussi du Village des damnés de John Carpenter, ces deux films sortis chez Elephant Film. Le Vampire et le Sang des Vierges d'Harald Reinle, édité par Artus Film. On va vous causer aussi de L'étang du démon de Masahiro Shinoda, qui est disponible chez Carlotta Film. On va aussi vous causer de deux presse-lâcheurs, enfin en tout cas ils sont souvent vendus comme ça, on vous dira nous ce qu'on en pense d'ailleurs de cette affirmation, à savoir Black Christmas de Bob Clark, qui est disponible chez The Ecstasy of Film, et Terreur sur la ville de Charles B. Pierce, qui est disponible chez Rimini, tout comme d'ailleurs L'autoroute de l'enfer de Ad de Jong, dont on vous causera également. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Christophe Cosins, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer fantastique et horreur, je suis évidemment accompagné de créatures hirsutes, à commencer par la bête noire de Compiègne, alias Damien Demey, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, l'homme mystère qui, depuis quelques semaines, recherche Matt Reeves pour lui coller un pain, alias John Ferret, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Salut John.
Salut GG, salut Damien, salut Thomas. Et oui, Matt Reeves, toi, je ne te salue pas, mais par contre, je salue tous les auditeurs.
Je précise que tout le monde ne partage pas l'avis de John sur le film de Matt Reeves. Moi le premier. Hein. Donc voilà. Alors, et puis, bon, évidemment, la créature la plus effrayante, la plus stupéfiante hein, qui nous a été donnée de rencontrer, à savoir le fameux loup-garou picard. Parce qu'il y a des loups-garous par région, mais le loup-garou picard, c'est vraiment le plus impressionnant de tous. Déjà parce qu'au départ, il est imberbe et tout à coup, il se développe un nombre de poils incroyable quand il se transforme. Il nous fait très peur. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland, hein, qui, chaque nuit de pleine lune, donc non seulement se transforme en loup-garou picard, mais aussi rédige de sanglantes chroniques pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef, et également pour l'émission À l'écoute du cinéma diffusée sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, salut John. Et oui, je suis un loup-garou particulier parce que je suis un loup-garou qui est quand même aussi un peu ours. Et je dis aussi salut à toutes.
Débutons cette émission avec un film qui, avec le temps, a acquis un statut culte, vraiment. Un statut aussi de film, comment dire, prémonitoire, hein, dont d'ailleurs le réalisateur se défend, il se défend dans les bonus de cette superbe édition d'ailleurs, hein, qui est sortie chez Elephant Film. On reviendra sur les bonus parce que il y a vraiment plein de choses très très intéressantes, mais on va y revenir après. Je vais bien sûr parler du Vidéodrome, un film de 1983, sorti en 1983 de David Cronenberg avec James Woods, Debbie Harry, Deborah Harry évidemment, la chanteuse de Blondie que toutes les personnes nées au début des années 70 comme moi aiment follement d'amour, voilà. Et puis toute une distribution, Lynn Gorman, Sonja Smith, Peter Dvorsky, voilà, enfin une bien belle distribution. Et l'histoire en fait est assez simple, à la base en tout cas elle paraît assez simple. Max Wren, qui est interprété par James Woods, est programmateur pour une chaîne du câble, une petite chaîne du câble, hein. Et il cherche comme ça, pour faire un peu scandale, pour faire connaître la chaîne, pour essayer de gratter de l'audience, de gagner de l'audience, et voilà. Ils cherchent des programmes un peu olé olé, des programmes, c'est pas Canal Plus qui va leur dire le contraire, avec à l'époque, ils se vendaient autour du film pornographique, hein, une fois par mois. Bah, il est un peu dans le même genre de recherche, il cherche des trucs un peu scabreux, voilà. Et puis, il finit par tomber sur des images très étranges que l'un de ses assistants lui présente via une vidéo qu'il aurait captée en Malaisie. Donc après, ils vont découvrir que ça vient de Pittsburgh, en fait, qui présente des femmes nues, torturées, enchaînées, flagellées, voilà. Ça semble très réaliste, le grain de l'image est assez dégueulasse. Et petit à petit, il va avoir une certaine fascination pour ces images. Il va petit à petit être complètement gagné par une dépendance à ce programme. Ce programme s'appelle le Vidéodrome, d'où le titre du film. Et il est invité à une émission de télé, un show télé assez insipide, où on parle des images violentes à la télé, voilà. Il est invité en même temps qu'une présentatrice radio qui est donc jouée par Deborah Harry, hein, qui est excellente dans le film. Il paraît qu'elle a donné beaucoup de fil à retordre d'ailleurs à Cronenberg. C'était la première fois qu'elle jouait de la fiction. Elle était uniquement connue pour être chanteuse de talent d'ailleurs. Et elle en fin de compte, elle s'en sort très bien, même si Cronenberg dit qu'il a eu beaucoup de mal à la diriger. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne l'utilise pas comme une chanteuse dans le film. Il n'est aucunement fait allusion à son statut de rock star, hein, puisqu'elle vient du punk. Alors aujourd'hui, on dit que c'était une pop star, mais à l'époque, elle vient vraiment du punk, hein. C'est quelqu'un qui est devenu connu, mais qui a beaucoup fait de live, beaucoup de scènes, travaillé beaucoup en club. Et ça, c'est complètement mis de côté. Là, on s'intéresse juste à son sex appeal, en fait. Et d'ailleurs, durant cette émission, James Woods va tout de suite tomber fou amoureux d'elle, et bon, il comprend très vite qu'en fait, bon, ils couchent très vite ensemble, il comprend très vite qu'elle est sadomasochiste. Il lui fait voir des images du Vidéodrome, et du coup, ben, ça l'attend pas mal d'aller justement, être elle-même victime des sévices que l'on voit dans le Vidéodrome. Donc, elle dit qu'elle file à Pittsburgh, et lui, tout de suite, ça va, parce qu'il l'aime bien en fait, hein, donc il va quand même être inquiet pour elle. Parce qu'il y a des limites au jeu érotique, hein. Par exemple, il lui perce le lobe de l'oreille avec une aiguille, ça il veut bien, mais quand elle lui demande de lui brûler les seins avec une cigarette, il refuse. Donc il y a quand même des limites au jeu qu'il veut bien s'imposer, et là il s'inquiète sincèrement pour elle, et il décide d'aller découvrir ce qu'est ce Vidéodrome, plus exactement ce que ça sous-entend, et il va pénétrer les arcanes d'une sorte de société secrète, voilà, dans laquelle il va rencontrer entre autres un professeur, le professeur Oblivion, hein, qu'il avait déjà pu voir par écran interposé dans son show télé où il intervenait, parce que le professeur Oblivion refuse d'apparaître en live sur les plateaux télé, il ne veut apparaître que via des écrans, et à partir de là, va s'opérer pour James Wood une sorte, alors de descente aux enfers ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas le métabolisme de son corps va en être altéré, sa télévision va être très organique, elle va être vivante, enfin il va avoir des visions, on va lui commander de faire des choses, enfin voilà, et ça va donner un film absolument hors norme, n'est-ce pas mon cher Thomas?
Oui, un film hors norme, mais aussi un film visionnaire sur le pouvoir de l'image, hein, sur la place que l'image prend dans nos sociétés. Hein, parce que tu parles de Vidéodrome, d'images un peu malaisantes, etc. Mais maintenant, Vidéodrome, aujourd'hui, ça s'appelle YouPorn, hein, quand même. On peut trouver ce genre d'images un peu extrêmes sur des sites comme YouPorn, etc. Mais la dernière fois que j'ai regardé le film, donc assez récemment pour l'émission, Il y a autre chose qui m'a frappé, c'est que je me souviens des propos que Cronenberg avait eus à propos de Existence qui, où il, dans lequel il parle de terroristes, en fait, en disant « ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous ». En fait, je fais le lien avec Vidéodrome parce que finalement, ce que devient le personnage de James Woods, il devient un terroriste manipulé par des grandes puissances occultes, etc. Et c'est aussi un film non seulement sur le pouvoir de l'image, mais aussi sur, finalement sur ce monde virtuel, ce monde un peu à part, qui est le monde du terrorisme. Car finalement, ce personnage devient un terroriste.
On retrouve donc les thématiques de Cronenberg, le body horror, la technologie, comme tu l'as dit Thomas, qui revient dans Existence, des choses qui sont propres. En re-regardant Vidéodrome, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait toute une question de l'objectivisation de l'être, notamment le fait que Derby Harry, il la rencontre une première fois, enfin à deux reprises physiquement, la première fois sur le plateau télé, ensuite chez lui, et ensuite quand il la revoit toujours à travers la télé, et quand il lui fait subir des sévices sexuels, ça se passe aussi à travers la télé finalement, cet objet du quotidien qu'on a. C'est d'ailleurs là-dessus que le film s'ouvre, il s'ouvre sur une femme qui lui parle directement à la télé, donc il fait enfin, c'est compliqué de dire un regard caméra, mais vu que la télé est en face et qu'elle regarde la caméra, un regard caméra où elle s'adresse directement à lui, et c'est intéressant parce qu'il pose du fantastique en mettant immédiatement l'anomalie d'un objet du quotidien qui s'adresse directement à la personne qui la regarde. Il y a aussi l'élément de l'érotisme qui arrive très très tôt dans le film, et toujours dans l'introduction, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui pose l'idée de finalement chercher cette sexualité très poussée. C'est qu'il y a un moment où les personnes qui dirigent la chaîne câblée avec lui regardent un porno japonais et trouvent ça très beau, très romantique. Et en fait, pour eux, c'est beaucoup trop normal. Et justement, ils ont cette quête du désir et de cette violence spectaculaire, voire éventuellement superficielles qui vont au fur et à mesure. Alors, comme tu l'as dit, Jérôme, descente aux enfers, ça dépend du point de vue, et pour moi, qui va le conduire à finalement cette descente aux enfers. Il y a un détail que je trouve aussi intéressant, c'est dans les effets qui sont utilisés, les effets spéciaux pour justement cette cassette qui peut bouger ou cette télé qui devient vivante. C'est des effets qu'on retrouve récemment dans Titan, avec justement ce mélange de technologie et de sexe. Et c'est des effets qui sont faits du coup par Rick Barker, qui a travaillé sur l'Exorciste, Star Wars et le Loup-garou de Londres, et qui est toujours aussi parfait ici.
Après, c'est pas un hasard, hein. Juliette Ducournau, elle est hyper fan de Cronenberg, voilà. Après, ce qui est intéressant dans le film, alors ce qu'on n'a pas dit, hein, c'est qu'après, il est comme contaminé, parce que la question de la contamination, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le cinéma de Cronenberg. Il est comme contaminé, et il va devenir, j'irais plus qu'un terroriste, même si c'est un terroriste martyr, il va devenir un martyr quelque part, jusque dans sa chair, il est contaminé. Et en fait, il y a des scènes particulièrement troublantes. Par exemple, c'est une sorte de vagin qui arrive sur son ventre, qui peut rappeler d'ailleurs ce qu'avait Marilyn Chambers dans Rage sous son bras. Là, il a une sorte de vagin qui arrive sous son ventre et qui est un. Et on lui glisse une Betamax dans le. Alors, il fait le choix, c'est expliqué dans les bonus par Stéphane Dumenildo. C'est-à-dire qu'on lui glisse une Betamax. Stéphane Dumenildo se pose la question de savoir si cette cassette Betamax, c'est pas un choix volontaire de Cronenberg, parce que déjà à l'époque, la VHS avait supplanté la Betamax, parce que la Betamax, c'est plus petit. Donc il faut quand même que ce soit crédible quand ça rentre dans son bide, même déjà si on accepte le postulat qu'un mec a un vagin qui lui pousse sur le ventre et qu'on rentre des objets dedans. Là, en l'occurrence, une cassette qui va lui donner des ordres, en fait. Hein, on peut quand même se poser la question de la crédibilité. Et c'est effectivement James Woods, le personnage de Max Wren, donc, va devenir une sorte de paria qui va se mettre à accomplir des missions. Il y a un côté même presque bourdieusien dans ce film, puisque il y a la violence symbolique qui est là, qui est un peu aussi un peu limite parodie avec ce personnage de professeur Oblivion, qui a des grandes théories surtout, mais en fait bon voilà, c'est plus ambigu que ça. Et il y a plein de détails, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, Thomas, tu le disais, c'est-à-dire que là on pose comme absolu de la pornographie la violence, c'est-à-dire on dit voilà, le passage à l'étape suivante, c'est la violence. Mais aujourd'hui, l'étape suivante, elle est franchie. Je veux dire, il existe des sites spécialisés où on peut voir des vidéos avec des femmes qui se font battre pendant des rapports sexuels et tout ça. Donc ça existe réellement aujourd'hui. Donc on a franchi ce palier-là. Donc en ce sens-là, c'est visionnaire, même si Cronenberg s'en défend, mais c'est visionnaire. Alors à l'époque, on disait que c'était visionnaire de ce qu'allait advenir avec la télé-réalité. Mais en fin de compte, ce qui nous montre, c'est comment cette sphère médiatique, ces écrans colonisent notre vie, à tel point d'ailleurs que c'est notre vie personnelle qui se retrouve mise en scène constamment à travers un rapport à l'image qui est malsain. Et c'est exactement ce qu'on vit sur Internet. Enfin, je veux dire, c'est ultra visionnaire en fait comme film, c'est clair, même s'il n'a peut-être pas tout fait exprès. J'invite vraiment nos auditrices et auditeurs à se procurer cette édition parce qu'il y a des bonus de dingue. Alors, bien sûr, Serge Grunberg qui analyse et tout ça, c'est toujours passionnant. Et puis il y a une rencontre avec Karim Hussein, directeur de la photo de Brendan Cronenberg, qu'on avait interviewé d'ailleurs dans Culture Prohibée. Vous aviez déjà pu écouter Karim Hussein qui est un type adorable. Et Karim Hussein raconte qu'en fait, ce dont tu parlais, Damien, c'est-à-dire le fait de filmer un écran de télé avec la bouche de Debbie Harry, qui lui dit come to me, voilà, cet appel à le rejoindre, voilà, à passer de l'autre côté de l'écran. En fait, ça a été très compliqué à faire parce qu'à l'époque, filmer des écrans de télé avec une caméra 35 mm occasionnait des désagréments visuels. Donc il fallait tout synchroniser. Et c'est la partie effets spéciaux, à la limite, qui a été très dure. Et il a rencontré un des assistants de Cronenberg, qui était venu alors que lui était étudiant. Et il lui a racheté le film de la bouche, qui est en fait projeté par derrière la télévision. Et du coup, dans les bonus, on peut voir le film avec que la bouche de Debbie Harry qui parle, qui dit « come to me, come to me, come to me ». Voilà, c'est assez rigolo. Il a il a la version, du coup, 8 mm ou 16 mm, je ne sais plus. Il a la petite bobine qu'il a gardée précieusement, qu'il a achetée. Comme il dit, comme s'il ne connaissait pas l'expression française dans les bonus, il dit une ventre aux enchères. Ce n'est pas vraiment ventre aux enchères, mais ça va bien avec le film de Cronenberg, du coup. Et puis, en bonus, il y a aussi tous les courts-métrages de début de carrière de Cronenberg. Et ça, c'est super, parce qu'avant, on était obligé de se fader une édition en import. Ce qui fait de cette édition de Vidéodrome, pour moi, une édition assez, assez ultime, que vous devez de posséder dans votre vidéothèque, et tout ça, c'est sorti chez Éléphant de Film. On va faire un petit bond dans le temps maintenant. On va changer d'éditeur. On va aller chez Rimini pour parler d'une petite série B du début des années 90 qui s'appelle L'autoroute de l'enfer, un film d'Ed de Jong. Alors, avec toute la famille Stiller, dont Ben Stiller, voilà, la frangine, le papa, tout ça. Enfin bon, bref. Mais en fait, qui tiennent un rôle très secondaire. Hein. Et c'est un film de 91 dont le scénario, puis un peu plus, je pense, est signé Brian Helgeland. Brian Helgeland qui sera un scénariste après très prisé d'Hollywood et qui va surtout réaliser un film fort sympathique, qui est une adaptation de Westlake et qui s'appelle Payback avec Mel Gibson, voilà. Et là, on sent qu'il y a beaucoup de talent hein, dans cette petite série B qui raconte l'histoire d'un couple qui va se... Chad Lowe et Christy Swanson, qui vont se marier à Las Vegas, en fait, et puis en douce, hein, parce qu'évidemment, ils sont très chastes, ils n'ont pas consommé le mariage et tout ça, ils font les choses bien, et ils vont se marier dans le dos de leurs parents qui sont contre ce mariage. Et puis, à un moment, ils ont besoin de mettre de l'essence, et il y a un pompiste assez sympathique, un certain Sam, qui leur dit ne prenez pas cette route, prenez plutôt l'autoroute. Voilà, et ils vont pas tarder à découvrir pourquoi, puisqu'en fait, ben, quand ils prennent cette route, ils se font attaquer par le flic de l'enfer qui kidnappe la jeune vierge et qui l'emmène en enfer. Et Sam va alors tout expliquer au jeune homme. Et il a, en gros, la nuit pour récupérer sa dulcinée. Et donc, aller en enfer, récupérer sa dulcinée. Dans ce film, cette série B, absolument délicieuse, mon cher Damien.
Le début du film nous mène un peu par le bout du nez, vu que au tout début, on commence, on se dit que ça va être une sorte de course-poursuite, vu que il mange dans un restaurant, il voit le flic qui les regarde un peu bizarrement, et ils se disent oui, il a compris qu'on avait pris la fuite, et il va essayer de nous poursuivre, et du coup, ils partent. Au début, il les suit, mais au final, il se rend compte qu'en fait, il ne les suit pas, c'est juste eux qui s'imaginaient des choses. Derrière arrive le pompiste et là je me suis dit, ou peut-être que ça va partir en exploitation à la colline des yeux et tout. Toujours pas, il introduit l'élément pas l'élément surnaturel tout de suite, il leur déconseille, mais moi j'étais encore parti sur le fait exploitation, ils vont se faire attaquer sur le trajet et tout. Et au moment où l'élément surnaturel débarque et qui lance en fait l'intrigue du film, j'étais conquis, j'ai aimé des tours et par où ils sont passés, et j'ai beaucoup aimé. À l'intérieur du film, il y a beaucoup de personnages en couleur, notamment Ben Stiller qui joue un Genghis Khan en enfer. Il y a un détail que j'aime beaucoup dans le film, alors déjà, il y a, au niveau des défauts, il y a certains éléments techniques visibles, comme des matelas en mousse quand on les voit tomber, mais il y a certains choix que je trouve incroyables, notamment l'autoroute de l'enfer en elle-même, qui est une super scène. C'est de la présence d'animation en stop motion que j'ai trouvé quand même vachement audacieux pour le film, et même au niveau des costumes, ils sont incroyables. Et tout ça dans un petit film, mais qui va quand même beaucoup revisiter la mythologie grecque, vu qu'on retrouve des éléments comme le psychopompe, le gardien des enfers, même le mythe d'Orphée qui doit aller en enfer, en repartir, qui va en enfer chercher sa dulcinée, doit en repartir sans regarder en arrière et tout. On a même le mythe de Déméter et de Perséphone et des références au cercle de Dante. Et ce sont plein d'éléments qui se juxtaposent à l'intérieur d'une série B que je trouve incroyable, parce qu'ils ne sont pas là justement pour en parler, ils sont là pour participer à l'action, mais ils ne dénaturent pas cette mythologie. Et le film est rempli de surprises extrêmement agréables, au final, malgré certains défauts, qu'on regarde plus au final pour voir avancer l'intrigue, ses retournements et ses effets, plutôt que suivre l'histoire en elle-même.
On va retourner, après ce détour chez Rimini et par l'autoroute de l'enfer, on va retourner chez Elephant Film pour une autre édition collector, tout aussi belle que celle consacrée à Vidéodrome, d'un film plus récent, par contre, 1995, qui est un film de Big John, quoi, de John Carpenter, à savoir Le Village des Damnés, un film qui intervient dans une période particulière de Carpenter. Carpenter vient de connaître quand même des gros échecs. Hein. On est en 92, il fait Les Aventures d'un homme invisible qui marche pas d'enfer, qui pourtant est vachement bien, moi je trouve. Voilà, qui est un film méconnu, qui est vraiment un très bon film, très bonne comédie. Il fait L'Antre de la folie, qui rencontre un gros succès critique, mais qui est pas forcément un film qui marche énormément non plus. Et il va se retrouver la même année, toujours en 95, hein, à faire ce remake du Village des Damnés. On ne sait pas trop si c'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il est gravement malade. On sait que quand il fait Los Angeles 2013, l'année suivante, il sait qu'il est gravement malade, d'où le côté punk du film très nihiliste. Là, dans Le Village des Damnés, bon, le film a un côté nihiliste aussi, hein, mais très différent. Alors évidemment, c'est les coucous de Midwich, hein, c'est un remake. Un remake, d'ailleurs, exercice dans lequel il s'était révélé déjà excellent avec The Thing, hein, qui réussissait quand même l'exploit d'être un remake largement supérieur à l'œuvre originale, qui, comment dire, que The Thing est un chef-d'œuvre, hein, de Carpenter, qu'il réalise en 82. Là, c'est le dernier film, je crois, avec Christopher Reeve valide, hein, l'interprète de Superman, qui fait un médecin. Il y a Mark Hamill qui fait un curé aussi, c'est assez rigolo. Et on est dans une petite ville des États-Unis, hein, le modeste village de Midwich. Et puis, un jour, tout s'arrête dans la ville. Tout le monde tombe au même moment. Il y a comme une manifestation surnaturelle. Tout le monde tombe. Les femmes se réveillent. Tout le monde se réveille, je veux dire, enfin, sauf ceux qui ont survécu. Il y en a un qui était en train de faire un barbecue, par exemple. Il est tombé dedans. Lui, malheureusement, il n'a pas survécu. Il ne s'est pas réveillé. Et tout le monde se réveille. Tout le monde finit par être... tout le monde semble aller bien, quoi. Et puis, tout à coup... les femmes tombent très vite enceintes. Toutes les femmes du village, même celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc ça crée des problèmes dans certains couples, tout ça et tout. Et ils ont tous des enfants merveilleux, beaux, aux cheveux blancs, aux yeux translucides, tous albinos, quoi. Voilà, en gros, un petit peu, ça ressemble un peu à ça. Et tous assez brillants. Seulement, ces enfants, on comprend très vite qu'ils ont une sorte de pouvoir, qu'ils sont malsains et qu'ils ont envie tout simplement d'éliminer les adultes, hein, dans tous les sens du terme. Et bien évidemment, du coup, il va y avoir une sorte de confrontation comme ça entre les adultes et les enfants, des enfants donc maléfiques, sont vraiment des enfants comme les autres. Voilà. Et bon, l'histoire, vous la connaissez tous, hein. Et ce qui est intéressant, bon, on sait que Carpenter aime bien mettre en scène des films où l'humanité est confrontée à une menace, voilà. Et là, bah, on est complètement dans ces thématiques. Pour un remake, moi qui à l'époque m'avait pas spécialement enthousiasmé, que j'avais été voir en salle, et que je trouve aujourd'hui, en fin de compte, vraiment chouette. J'ai trouvé même que c'était un très bon film. D'ailleurs, je pense que Carpenter a pas vraiment fait de mauvais films, en vérité.
Il ne s'agit pas de haine, mais d'une nécessité biologique. Tu penses à ce qui s'est passé pour tous les autres? Alors nos agissements ne devraient pas te surprendre. Il nous faut survivre, et cela, quel qu'en soit le coût. Nous sommes les derniers qui restent.
Pourquoi on n'arriverait pas à se comprendre, et peut-être même à vivre ensemble?
S'il fallait coexister, nous vous dominerions. Et ce serait inévitable.
J'ai vraiment redécouvert le film là pour l'émission et je me faisais pareil, cette même réflexion, que c'est un mec sur les remakes. Il arrive vraiment à donner toute sa patte, tout son talent en termes de mise en scène. Le générique déjà avec cette arrivée d'un nuage, et quand on écoute le mixage son, eh bien, ça fait un petit peu penser même à l'arrivée du film de Philip Kaufman, l'invasion des profanateurs comme ça. Il y a deux scènes parmi énormément de scènes que j'aime, mais il y a vraiment deux scènes. La scène où tout le monde tombe est assez étrange, et encore une fois, Carpenter apporte dans sa mise en scène tout ça, mais c'est surtout aussi la scène de la femme du médecin quand l'enfant est encore enfant, et la musique, et on sent que l'enfant va psychiquement demander à sa mère de mettre la main comme ça dans une grande casserole d'eau, et vraiment c'est monté, il y a une musique où il y a une vraie tension pour cette scène là et après directement on enchaîne aussi sur le suicide de cette même femme, et voilà, c'est merveilleusement mis en scène. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que Carpenter montre vraiment le vrai dysfonctionnement d'une communauté, parce que la communauté ne s'attendait pas du tout à ça. Et on voit que certaines ne veulent pas accoucher, que d'autres veulent accoucher. Il y a toute cette tension. Il y a une scène d'ailleurs qui est pas mal, c'est tout l'accouchement de toutes les femmes là-dessus. Et il y a aussi ce truc où, dans les enfants, il va en manquer un, parce qu'il va... Il va être mort-né. Et le seul enfant qui n'aura pas son compagnon, parce qu'ils sont tous accompagnés, ils sont tous par pair, et il y a un enfant qui malheureusement n'a pas son compagnon. Et ça va être peut-être cet enfant-là qui va commencer à avoir une sorte de sentiment humain. D'abord, ça fait partie d'un des discours de Christopher Reeves à un moment dans leur planque à eux, en disant « mais ressentez les choses ». Donc là, voilà encore, Carpenter nous dit des choses là-dessus. Et bah, il y a toujours aussi cette façon de jouer entre des enfants mignons et puis capables des pires choses, et notamment avec leurs yeux comme ça qui changent. D'ailleurs, je pense qu'Edgar Wright va s'en rappeler dans le dernier bar avant la fin du monde, où il y a ces yeux comme ça remplis de lumière qui poussent les humains à faire quelque chose. Enfin voilà, moi j'adore vraiment ce film, et c'est du pur fantastique, et c'est la patte d'un Carpenter pour moi vraiment inspiré aussi. We'll be right back.
vous écoutez Culture Club. On va faire un bond dans le temps et se diriger vers un petit classique méconnu, hein, un film de 67, un film d'Harald Reinle qui s'appelle Le Vampire et le Sang des Vierges. Et bien que ce soit une histoire de vampire, ça plaît beaucoup à notre loup-garou Picard.
Oui, parfois il faut savoir ranger les vieilles rancœurs. Le Vampire et le Sang des Vierges, c'est un film que j'attendais depuis longtemps. J'avais découvert sur Arte, hein, où, quand Arte diffusait des films d'horreur le vendredi soir tard, là, j'avais découvert sur Arte et ça m'avait beaucoup plu. Et donc je suis très content de cette édition de chez Artus, hein, donc le film d'Harald Reinle, hein, qui est un artisan du cinéma allemand, qui a fait des Docteurs Mabuse, etc. Donc Le Vampire, le Sang des Vierges, bon, c'est un noble qui est écartelé sur place publique parce qu'il a assassiné de nombreuses jeunes femmes, 12 jeunes femmes, hein, je crois, hein, si je ne me trompe pas dans le décompte, qui a assassiné 12 jeunes femmes à des fins qu'on ne connaît pas encore. Et donc il dit « Mais je vais revenir à me venger !» Effectivement, il revient, il se venge. Donc on fait un bond dans le temps, il y a une ellipse, on introduit d'autres personnages qui sont mystérieusement invités par de mystérieux personnages qui sortent du cadre et puis hop, disparaissent comme ça, à une petite sauterie dans un château. Enfin, ce qu'on imagine être une petite sauterie dans un château, hein. Je dis ça comme ça, mais je m'avance peut-être un petit peu. Et donc, ce personnage se rend avec une autre jeune femme qu'il rencontre en cours de route, qu'il sauve de méchants brigands de grand chemin, hein, qui voulaient la dévaliser certainement. Et donc, ils se rendent compte qu'ils vont au même endroit, à cette petite sauterie dans un château, invités par un mystérieux personnage dont le nom m'échappe. Hein. Moi, je ne retiens pas les noms des personnages.
Alors, le nom du personnage, c'est le comte Régula, Thomas.
Ah, effectivement, ils sont invités dans le château du comte Régula. Il fallait bien que Gégé me régule sur ce coup-là. Régula est interprété par Christopher Lee, l'inévitable Christopher Lee, hein, qui a traversé la Manche pour aller jouer chez les Teutons. Et donc, en fait, il a assassiné ces 12 jeunes femmes pour pouvoir atteindre l'immortalité avec un mystérieux serviteur qui est entre Igor et puis le serviteur du comte Dracula. Hein. Mais en fait, c'est un film qui vaut surtout pour son esthétique. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans Le Vampire et le Sang des Vierges. Enfin, il y a des choses trappes, il y a des pièges, mais personne ne meurt. Hein. Tout le monde s'en sort toujours. Mais le film, donc, vaut surtout pour son esthétique. Un film qui rappelle, je pense que Gégé, tu seras d'accord avec moi, qui rappelle beaucoup le gothique italien, Mario Bava, etc. D'ailleurs, je pense que c'est clairement inspiré. Hein. Donc, le film vaut surtout pour ça. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Le film est assez court. Bon, il y a la fin qui est un peu en apothéose, mais il y a très peu de violence, il y a peu de morts, il n'y a pas de sang. C'est surtout un film qui vaut surtout pour ses chausse-trappes, ses couloirs. C'est un film de couloir, un peu un film de couloir gothique, avec ses éclairages dignes d'un Mario Bava. Voilà. Mais c'est un petit classique du cinéma allemand. Le cinéma allemand, comme ils le disent dans l'édition, hein, qui est assez avare en film d'horreur, en fait, hein, à cette époque-là, du moins.
Après, c'est un film, c'est vrai qu'il vaut pour son esthétique, c'est-à-dire que c'est un très beau film qui a presque un côté hors du temps. Le film a presque un côté, il aurait pu être fait dans les années 30 en fait, d'un point de vue visuel, il a un côté presque expressionniste, tu l'as dit, il évoque aussi le gothique italien, il peut évoquer la Hammer Film aussi, la présence de Christopher Lee n'est pas d'ailleurs inutile. Lex Barker a aussi beaucoup joué, il a été Tarzan, il a fait plein de choses, Lex Barker. Il a aussi joué dans des coproductions avec l'Italie. La belle jeune femme, c'est Karine Dorr, très très belle, qui d'ailleurs était la femme du metteur en scène. Hein. Et Harald Reinle, c'est quand même pas un petit joueur. Enfin, c'est un réalisateur très talentueux qui a fait beaucoup, beaucoup de crimi, qui a une filmographie quand même longue comme le bras, qui a fait des Winnetou avec Pierre Brice. Enfin, c'est un réalisateur de cinéma populaire, dans le bon sens du terme. C'est un réalisateur populaire, voilà, et qui donc signe avec ce film. C'est vrai, peut-être, Je crois que je dois avoir vu tous ses crimis et ça, mais j'ai pas vu tous ses films. Mais c'est peut-être son meilleur film. En tout cas, dans ce que j'ai vu, c'est peut-être son meilleur film. Je voudrais ajouter quand même qu'il y a plein de peintures murales et tout qui sont assez démentes. Hein. On se croirait un peu chez Jérôme Bauche par moment. Voilà, il y a un côté démesuré à ce film qui pourtant doit pas être un gros budget, hein, mais il y a un côté fou et démesuré. Il y a même pas mal d'humour. Enfin, c'est assez étrange. Il y a des ruptures de ton par moment assez étonnantes. Et je voulais juste dire qu'il y a un super livret de Christophe Beer qui revient donc sur l'intégralité de la carrière du réalisateur de ce film. Et donc, ça achève de rendre cette édition collector indispensable. Alors, je vais changer un peu de continent. Je vais aller vers le Japon et je vais vous parler d'un film de Masahiro Shinoda, un film de 79, qui s'appelle « L'étang du démon ». Qui est un film assez, assez étrange en fin de compte, hein, assez atypique. Ça se passe dans la province des Shizen, on est à l'été 1913, et en route vers Kyoto, le professeur Yamazawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l'étang du démon, objet de superstition de la part des habitants. En effet, si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon retenu au fond de l'eau sera libéré et provoquera un déluge mortel. Et l'arrivée de Yamazawa chez Akira Ayuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition immuable, va bientôt mettre en péril cet équilibre. Alors, voilà un film bien étonnant, comme seul le Japon peut en produire. Hein. Un film vraiment un peu hors norme. On va croiser un homme poisson-chat, un homme crabe, enfin, des choses comme ça, des choses assez étranges, avec un film à la plasticité. On parlait de... Juste avant, on parlait du film d'Harald Reinle. On est dans quelque chose alors, de différent, mais c'est pareil, le film, plastiquement, c'est un émerveillement de tous les instants. Et il y a un petit côté aussi Tristan et Iseut, un petit côté amour fou, comme ça, par-delà la mort. Enfin, les costumes sont incroyables, les maquillages sont incroyables. Et c'est un film qui est vraiment typiquement japonais, parce que c'est un film où d'abord, les deux rôles féminins principaux sont joués par un seul acteur masculin, déjà. On appelle ça un onagata. Enfin, l'onagata, c'est une pratique héritée du kabuki. Alors déjà, on a le kabuki qui vient s'immiscer dans le film. Voilà, le théâtre kabuki qui vient s'immiscer dans le film. Et on a donc Tamazaru Bando qui interprète Yuri, mais aussi la princesse Shira Yuki. Voilà. Mais n'ayez pas peur, on n'allait pas arriver dans une œuvre un peu absconce ou un peu... Voilà, on est vraiment dans un vrai film fantastique avec vengeance, malédiction et tout, voilà. Et puis, c'est signé par un réalisateur... qui est un chantre de la nouvelle vague japonaise. C'est un des réalisateurs de la nouvelle vague japonaise parmi les plus connus. Donc on est assez étonné de le retrouver comme ça aux commandes de ce film fantastique avec une musique électronique composée par Isao Tomita, donc qui contraste. Ce film, c'est vraiment un mélange entre tradition et modernité. C'est vraiment un film assez unique où rien n'est réaliste. C'est-à-dire que c'est un film fantastique dans tous les sens du terme. Mais rien n'est réaliste. Ce mélange de cinéma et de kabuki se traduit même dans le surjeu des acteurs. Les acteurs en font 15 tonnes et tout ça. Mais c'est pas grave, tout passe crème, comme le dit l'expression. Et on reste éberlué devant cette petite merveille. Donc moi, je vous conseille vivement de voir cet étang du démon, l'étang du démon de Masahiro Shinoda, qui est disponible chez Carlotta Film. Écoutez, Culture Prohibée spéciale fantastique et horreur. On va terminer cette émission avec deux films. Deux films qui sont sortis à très peu d'années d'intervalle, l'un de 74, l'autre de 76. Deux films considérés comme des précurseurs du slasher. J'ai envie de dire oui et non. Hein, bon, voilà. Ces deux films, c'est Black Christmas et Terreur sur la ville, The Town That Dread Sundown. Et Black Christmas, alors The Town That Dread Sundown de Charles B. Pierce avec Ben Johnson, c'est sorti chez Rimini. Et Black Christmas est sorti, encore une fois, dans une superbe édition, l'objet est magnifique, hein, chez notre ami The Ecstasy of Film. C'est blindé de bonus. Hein. Il y a les bonus qu'on connaissait déjà, qui étaient dans l'édition, dans des précédentes éditions. Et puis il y a des bonus inédits, hein, question-réponse avec Bob Clark, John Saxon et Carl Zittrer, une interview de Margot Kidder, les bandes-annonces des spots TV, et puis un livret très... très enrichissant de Marc Toulek qui traite vraiment de la carrière de Bob Clark qui, comme vous savez, est mort tristement avec son fils alors qu'il avait encore plein de projets sur le feu. Il a été fauché par un chauffard, voilà, qui les a tués, avec qui ils ont fait un face-à-face. C'est comme ça. Et Black Christmas, c'est... donc, qui est de 74, avec un casting assez sympathique, puisqu'on y retrouve John Saxon, Kierre Dully, qui s'est échappé de Milan, l'Odyssée de l'espace. Alors, pourquoi un acteur aussi connu que Kierre Dully tourne dans un petit film d'horreur comme ça au Canada? Tout simplement parce qu'il a de la famille au Canada, donc ça lui a permis d'aller au Canada puis de gagner du fric en même temps. C'était, voilà, c'est assez rigolo. Avec Olivia Hussey, hein, qui aujourd'hui... qui passe sa vie à se dire tout le monde se rappelle de moi pour Roméo et Juliette, alors qu'en fait tout le monde se rappelle d'elle pour Black Christmas aujourd'hui, voilà. Et puis Margot Kidder, la grande Margot Kidder, hein, qui sortait de Sœur de Sang de Brian De Palma à l'époque et qui fera une magnifique carrière et qui interprète un personnage un peu comment dire, malheureusement, qui va un peu lui porter malheur, lui coller au basque, puisque ce personnage d'alcoolique, là c'est une étudiante alcoolique, malheureusement toutes ses addictions, elles vont vraiment lui coûter sa vie à Margot Kidder, puisqu'elle va mourir tragiquement comme on dit, d'une surdose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? On a Olivia Hussey, Margot Kidder, qui ont déjà plus du tout des têtes d'étudiantes à l'époque, hein, mais bon, c'est pas grave. Elles sont charmantes, hein, mais on voit bien qu'elles n'ont pas 19-20 ans, quoi. Voilà. C'est comment? On peut étudier à tout âge, mais bon, voilà. Qui vivent donc dans une résidence étudiante de filles, avec d'ailleurs une logeuse assez rigolote qui planque des bouteilles de gnôle partout pour se saouler la gueule dans la cuvette des chiottes, machin. Enfin, elle planque de la gnôle partout, elle picole tout le temps. Mais elle est assez sympa, elles font plutôt ce qu'elles veulent, en fait, hein, toutes ces filles là réunies dans cette sororité, voilà. Et puis, elles reçoivent des appels téléphoniques très troublants, avec des voix vraiment dégueulasses, des trucs vraiment immondes, un drôle de discours, et qui les fait un peu flipper. Et puis, en même temps, il y a une petite fille aussi qui a disparu, une jeune fille qui a disparu. Et puis, il y a une des filles qui vit dans cette sororité, qui va, elle aussi, disparaître. Son père vient la chercher, il ne la trouve pas. Au moment où on trouve le cadavre donc, de cette jeune fille qui a disparu, qui, elle, ne fait pas partie de la sororité. Donc, il y a un tueur qui sévit dans les environs. Voilà, on le sait maintenant. Mais où est ce tueur? Pourquoi est-ce la même personne que celle qui passe des coups de fil anonymes? Eh bien, tout ça, on va le découvrir. Bon, évidemment, c'est la même personne. Hein, je ne vais rien vous cacher. Hein, voilà. On va vivre donc un moment assez terrifiant avec ces jeunes filles qui vont être attaquées avec ce tueur. Ce tueur, donc, qui est, selon certains, une sorte de précurseur du slasher. Moi, je pense plutôt que Bob Clark, à l'époque, Bob Clark, on rappelle quand même qu'il a réalisé, avant de faire plein de comédies, parce que ça lui a rapporté plein de sous, il a quand même réalisé le très bon Meurtre par décret, puis il a surtout réalisé Le Mort-Vivant, qui est un immense film avec ce zombie qui est en fait un ancien combattant du Vietnam que sa mère ne veut pas laisser mourir, donc il revient, c'est sublime. Et là, avec ce film-là, c'est vrai que si, pour moi, il a surtout vu beaucoup de giallo, on retrouve beaucoup, et en particulier une scène de meurtre, le meurtre de Margot Kidder, qui est un meurtre vraiment qui évoque le giallo dans la manière dont c'est filmé, dans l'arme qui est utilisée, voilà. Mais je ne sais pas si consciemment, enfin je ne pense pas d'ailleurs, hein, que consciemment il ait voulu créer un nouveau genre. Le fait est en tout cas que le film fonctionne toujours bien et fout toujours bien la flip, n'est-ce pas mon cher John ?
Une flip incroyable. J'ai revu, ça fait longtemps que j'avais pas revu ce film-là, et je l'ai revu pour l'émission. Et alors, en plus, j'ai écouté ça au casque directement et j'ai vraiment flippé. Donc lui, Bob Clark m'avait déjà sacrément étonné pour les films que tu as précités. Mais là, c'est quand même sacrément incroyable pour moi. Il y a une utilisation de la caméra subjective qui est excellente, et ce, dès le début du film. Le premier meurtre est pour moi un exemple de mise en scène et de montage. On voit à travers comme ça, du placard, à travers le plastique, la victime se rapprocher. Il n'y a pas du tout, comme on peut voir en ce moment sur toutes les productions d'horreur, l'action prend son temps. Enfin, l'action prend son temps. Il n'y a pas de jumpscare. Il n'a pas besoin de ça, Bob Clark, en fait. Il n'a pas besoin de jumpscare pour créer la terreur, parce qu'il arrive à la créer par sa mise en scène, par le montage, par la musique. La voix qui appelle est totalement flippante. On se dit qu'on a affaire à vraiment quelqu'un qui est vraiment pété du casque. Et il arrive à faire un truc qui est pas souvent facile, c'est de gérer l'humour et l'attention. Et l'humour est vraiment pour moi présent, tu l'as souligné avec La Logeuse, qui est vraiment une comédie à elle-même. Il y a aussi Margot Kidder dans une séquence avec le policier où elle lui dit un certain mot et après tous ses collègues vont se foutre de lui. Et Margot Kidder a là cette liberté d'être vraiment elle-même, un peu sur les nuages. Moi, elle m'a conquis. Et déjà, elle m'avait conquis, mais là, elle me conquit encore plus sur ce film-là. Et après, bon, voilà, il y a les plans subjectifs, il y a toujours un danger qui est toujours souligné, le tueur normalement se cache toujours dans le grenier, il y a cette trappe, et c'est con à dire, mais moi cette trappe, à chaque fois, on la voit se refermer tout doucement, on la voit s'ouvrir, on voit même en vue subjective que le tueur observe sa victime de loin, donc comme c'est en vue subjective, on sent la tension et on se met à la place comme ça d'un prédateur qui peut observer sa foi. Et là, tu l'as souligné Jérôme, la scène qui pour moi est incroyable, qui est le meurtre de Margot Kidder, qui est monté, mais voire même Bob Clark va jusqu'à nous faire voir que les yeux du tueur, c'est-à-dire qu'il prend le pari, parce que je crois que même tout le film, on ne verra pas le tueur, mais il prend le pari de nous faire voir, comme l'avait pris un certain Dario Argento dans Les Frissons de l'Angoisse, il prend le pari de nous faire voir que les yeux, et cette scène est vraiment démente pour ça. Donc voilà, j'étais conquis par cette revision, et c'est juste sacrément flippant, et vachement bien fait.
Il me semble qu'on voit son visage aussi, hein, plusieurs fois, mais très fugitivement, et puis au fond du cadre, quoi. Et moi, ce qui m'a frappé dans le film, quand je l'ai revu, c'est un film qui déjà parle de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et ça, c'est pas souvent qu'on l'a vu dans les films de cette époque-là. Et là-dessus, le film est quand même plutôt visionnaire, quoi, plutôt en avance sur son temps, je trouve. Mais bon, ça vaut pas son dernier remake, ceci dit.
Oh, le provocateur, parce qu'il y a deux remakes, hein. Ils en parlent dans les bonus, hein, dans le livret bonus, et d'ailleurs dans les bonus on découvre aussi que la voix, c'est trois voix différentes dont une voix féminine. De toute façon, c'est une édition collector qu'il vous faut absolument posséder si vous voulez voir un bon film d'horreur bien flippant, voilà, parce qu'en plus tous les bonus sont savamment choisis, mais oui, avec cette femme qui veut avorter, qui est enceinte contre son gré et qui veut avorter, Olivia Hussey en l'occurrence. Et puis oui, avec cette idée, du coup, tu as vendu la mèche, John, cette idée qui sera reprise dans Terreur sur la ligne de l'assaillant qui est dans la maison, en fait. Voilà, donc c'est vraiment... Bon, on le sait très vite, hein, dans le film, hein, de toute façon, on le sait très très vite. Hein.
Et on le sait via une scène, moi, qui m'a toujours incroyablement surpris et voire météorisé, c'est cette fameuse scène du téléphone, parce que le téléphone est sur écoute, et tout d'un coup, alors qu'on le sait, mais la scène fait son effet quand il dit « Attention, l'appel vient de chez vous ». Et là, on sait que le danger est dans la maison. J'adore.
Et puis à la fin, il y a quand même un long plan séquence tétanisant. Hein. Le film laisse un goût amer dans la bouche, hein, quand même, quand il se termine. Enfin, qui fait comme Le Mort-Vivant, d'ailleurs. Hein, qui sont pour moi les deux grands films de Bob Clark. Hein. Bon, malheureusement, il a choisi de ne plus trop se tourner vers le fantastique et l'horreur. Alors, vous l'avez compris, pour nous, c'est surtout un grand thriller, ce film. C'est pas forcément un slasher, c'est un grand thriller. Voilà. Et le dernier film dont on va parler, Terreur sur la ville de 76 de Charles B. Pierce, c'est un film qui est à mi-chemin. Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup, donc je suis très content que le Rimini sorte dans une très belle copie en Blu-ray, qui s'est inspiré d'une histoire vraie, d'un véritable tueur. C'est le scénario est signé Earl E. Smith, à qui on doit l'écriture du Retour de l'inspecteur Harry. Et on s'intéresse à un tueur qui a débuté ses méfaits en mars 46, le 3 mars exactement, un tueur masqué qui était surnommé The Phantom Killer, qu'on n'a jamais attrapé, qui a sévi dans une ville située à la frontière entre le Texas et l'Arkansas, qui s'appelle Texarkana. Ça ne s'invente pas un nom pareil. Hein. Et le film démarre comme un documentaire sur la situation de cette ville après-guerre. Tout est filmé avec documentaire, voix off, vraiment comme si on était dans un documentaire avec reconstitution et tout. Alors, c'est une petite production, mais c'est fauché certainement, mais ils mettent tous les moyens à l'écran, ça se voit pas trop. Et puis tout à coup, il y a un couple qui se fait tuer dans une voiture. Et là, tout le film se trouve déréglé, tout devient étrange. Et la scène où le couple se fait tuer dans la voiture, d'ailleurs, il y a une super scène qui joue sur le son. Par rapport à le son et les cris des victimes, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. Je vous en dis pas beaucoup plus, il faut voir le film, quoi. C'est vraiment une super scène. Et à partir de là, va se dérouler une enquête. Bon, le flic du coin est un peu... il est jugé comme un peu dépassé par les événements. Donc, on lui envoie Ben Johnson en Marshall, qui est la star du film, en fait. Hein, plutôt star sur le retour, qui vient un peu arrondir ses fins de mois, là. Et... ils vont traquer ce tueur qui n'a jamais été attrapé en vérité, hein, voilà, hein. D'ailleurs dans le film on n'attrape pas le tueur, et le film est tellement culte aux États-Unis qu'il va y avoir un remake qui est excellent, un remake très stylisé d'ailleurs dans les années 2010. Et là, le film pour moi est un film. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film, mais c'est vraiment un film étrange, vraiment un film très bizarre. Et à un moment, il y a un meurtre avec un trombone, qui est une scène carrément hallucinante. Enfin, voilà. Non, vraiment un drôle de film. Pour moi, c'est une petite pépite de la série B. C'est pas un grand film, mais c'est typique du film quand vous allez mettre la galette dans votre lecteur. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un film pareil. En tout cas, vous ne vous attendez pas à ça. C'est un film assez hors norme.
Extrêmement étrange. Comme tu as dit, on a introduit avec une voix off qui nous présente le contexte, fin de guerre. Ils nous disent qu'une partie des soldats sont sur retour, mais que la majorité de la ville sont là, mariage, travail et tout. Au départ, on ne sait pas trop où se situer. Et la première scène arrive vraiment violente et intense, avec, comme tu l'as dit, le travail autour du son, notamment, surtout les cris qui sont très présents. Et il y a un truc qui dénote énormément, c'est justement tout ce qui se passe avec la police, parce qu'il y a de l'humour dans le film, et c'est autour de la police. Ce qui est assez particulier, vu qu'on a des scènes de meurtre qui sont vraiment violentes et intenses, et à côté, on a la police qui est censée, du coup, enquêter, rassurer et partir pour essayer d'attraper le tueur, qui sert de running gag, ce qui fait que le tout est vraiment bizarre. La fin est extrêmement cool de la façon dont tout est amené. Il y a même des moments qui sont absolument géniaux. On voit jamais le tueur, sauf quand il a son masque, du coup le Phantom Killer. Mais il y a aussi des moments où on insinue que c'est lui à travers la ville. C'est-à-dire qu'on filme juste des pieds. Et c'est super intéressant, car c'est un moment qui revient souvent. Souvent. À 2-3 reprises dans le film, mais pour sous-entendre justement, finalement, ça marque bien cette ambiance de paranoïa, parce qu'on ne sait pas qui c'est, et en filmant juste les pieds d'une personne, on peut indiquer que c'est absolument n'importe qui. On retrouve même l'évolution d'un tueur en série, c'est-à-dire qu'il va avoir une façon de faire, et au fur et à mesure, il va évoluer. Je pense que la scène du trombone qui est totalement bizarre et hors contexte sert un peu à ça.
Je précise, c'est un trombone à coulisses, en fait. Hein. Je dis trombone, on peut se dire, le mec va prendre un trombone pour accrocher du courrier. Non, c'est un trombone à coulisses. C'est vrai que c'est très étrange comme scène. L'humour est un peu étrange. Parfois, l'humour est même malvenu. Hein. Enfin, je trouve que ça gâche un peu le film. Après, il y a un point commun, par contre, avec le Black Christmas, du coup, de ces deux films qui se suivent à deux ans près. C'est quand même que... Alors, je sais pas si ces gens-là avaient tous vu des giallos, quoi, mais les flics sont particulièrement incompétents. Parce que, voilà, ils sont mauvais dans les deux films. Hein, voilà. En gros, les flics seraient pas là, ce serait la même chose. Hein, parce qu'il y a personne pour vous sauver du meurtrier. Hein, voilà.
Indirectement, ça me fait penser un peu à Memory of Murder, où la police est paumée. Sauf que pour le coup, ici, c'est... En fait, c'est vraiment quelque chose de plus étrange, parce que si on prend Zodiac ou d'autres choses, on poursuit un tueur en série, la police va être vraiment carrée, sérieuse, toute l'attention et tout. Alors qu'ici, à chaque fois que la police intervient, c'est pour un sketch, ce qui est bizarre, parce qu'on part quand même d'un tueur en série, de faits inspirés, enfin, d'événements inspirés de faits réels, et je vois pas aujourd'hui comment il serait possible de faire quelque chose d'identique.
Je voulais juste terminer en disant que Charles B. Pierce a fait aussi un autre film très étrange qui s'appelle The Evictors, avec Jessica Harper, Vic Morrow, un film de 79. Si un éditeur pouvait nous le sortir, parce que ça aussi c'est un film très très étrange. Je lance un appel, sortez-nous The Evictors. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine !